Le doux son de nos pas dans la neige. Le cliquetis d'un mousqueton avant de s'élancer sur une paroi. Les discussions matinales d'un groupe de randonneurs au départ d'un refuge. Ou encore, le bruit du torrent dans la vallée. Ça y est, vous êtes à peu près situés ? Alors bienvenue dans les Pyrénées. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis béarnaise. Je tiens à le préciser car c'est une des raisons qui m'amène à avoir créé Latitude Pyrénées. Dans ce podcast, toutes les deux semaines, je vais à la rencontre de ceux pour qui les Pyrénées ont un goût si particulier. Sportifs, auteurs, professionnels de la montagne, passionnés, réalisateurs, aventuriers, des hommes et des femmes de tout âge et de tout horizon qui nous partagent leur vision et leur histoire. À travers des échanges d'une trentaine de minutes, mon but est de vous faire découvrir ce massif de plus de 450 km qui s'étend de l'Atlantique à la Méditerranée, partagé entre la France et l'Espagne. Mais j'espère aussi vous inspirer au travers des récits de mes invités qui ont tous quelque chose à nous enseigner. Ici, on parle donc de montagnes, mais pas que. Les montagnes sont une porte d'entrée pour questionner le rapport que l'on entretient aujourd'hui en tant qu'humain avec notre environnement et nos écosystèmes. C'est également une porte d'entrée pour évoquer des choix de vie, de carrière parfois, qui emmènent vers les montagnes, mais également regarder de plus près ce qui se passe dans ce territoire, où culture et patrimoine sont bien ancrés. Dernière petite chose, si vous aimez Latitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte, par la suite, avec mon expérience, ce que ça comporte au quotidien, que oui, en fait, c'était osé. C'était osé, il fallait assumer. J'essaye de le faire, hein. Je réfie pas tout.
C'est une jeune femme avec du cran que je reçois aujourd'hui au micro du podcast. Elle a osé, comme elle le dit. Osé prendre des responsabilités au quotidien qui engagent tout un village. À 27 ans, Ophélie Escott est la plus jeune mère de France. Et c'est dans les Pyrénées qu'elle dédie tout son temps. Ça ne vous est jamais venu à l'esprit de devenir maire de votre commune ? Rassurez-vous, moi non plus, mais je suis ravie de pouvoir interviewer des personnes qui osent s'engager. Ajoutons à sa fonction de maire que Ophélie est aussi bergère. J'étais curieuse d'entendre le parcours de cette jeune femme pleine de vie. Pourquoi devient-on maire ? Ça consiste en quoi exactement ? Comment est-ce qu'on concilie une activité agricole avec une vie politique ? Et être une femme dans tout ça, et en plus jeune, est-ce que ça change quelque chose ? Dans cet épisode, Ophélie nous plonge dans sa vie à 100 à l'heure et nous partage son amour pour ses montagnes et surtout pour son territoire. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très belle écoute.
Bonjour Ophélie.
Bonjour Anne-Sophie.
On est aujourd'hui dans une mairie.
Exactement.
Est-ce que tu peux me dire où on est et pourquoi on est dans une mairie toutes les deux aujourd'hui ?
On est dans la mairie de Cetteiguin. Donc, une petite commune de la vallée d'Aspe dans les Pyrénées-Atlantiques. Et j'en suis maire depuis 2020. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés ici aujourd'hui.
Mais tu as 27 ans.
J'ai 27 ans.
Mon âge. Et tu es maire d'une petite commune.
Exactement.
On va en parler, mais tu es aussi bergère.
Oui.
À côté. Si on peut commencer par ça, à quoi ça ressemble une vie de femme bergère dans les Pyrénées ?
Alors, ça ressemble à une vie de nomade, quelque part, puisque on passe donc l'été en estive. C'est pour ça qu'on dit bergère. Mais je suis aussi éleveuse de mes propres animaux. Donc, le reste de l'année, je suis sur l'exploitation familiale située à Cetteiguin, ici sur la commune. Donc voilà, je parcours, je traverse les saisons avec mes animaux et voilà, c'est une vie en montagne, mais de façon différente, que ce soit au village et l'été en montagne.
T'as toujours voulu faire ça ou c'est plus parce que tu as grandi ici et que c'est l'exploitation familiale que du coup tu as repris
Alors au début, moi j'ai toujours connu ça, c'est-à-dire que j'ai fait mes premiers pas en estive, voilà, pour schématiser un peu l'histoire. Donc j'ai toujours connu cette transhumance-là, partir au mois de juin à Peyraner, donc proche du col du Somport et de la frontière espagnole, avec mes parents et les animaux, hein, les brebis et les vaches en l'occurrence. Passer mes vacances scolaires là-haut et repartir à l'école en septembre, et c'était souvent un déchirement d'ailleurs, parce qu'il fallait quitter toutes ces habitudes qu'on prenait tout au long de ces 4 mois, en pleine nature, voilà, à découvrir l'environnement qui nous entourait. Mais c'est quand même un métier qui est très difficile, qui est complexe, qui est chronophage aussi. Donc c'est vrai que si je souhaitais voir mes parents, on était entraînés dans l'activité. Ça faisait partie totalement de nos vies. Donc j'ai souhaité faire autre chose, on va dire, au lycée. J'étais passionnée de ski alpin. Et donc je suis partie du côté des Hautes-Pyrénées, du côté de Lannemezan, au lycée Michelet, pour faire un bac général scientifique à ce moment-là. Et aussi allier donc l'activité ski alpin, puisqu'il y a une section ski alpin aussi à Lannemezan. Donc j'ai quitté en fait l'exploitation et la maison familiale à 15 ans. Je suis partie là-bas durant les 3 années du bac. Donc ça m'a fait découvrir aussi un autre univers, une autre partie des Pyrénées. J'ai fait d'autres études aussi au Pays Basque, à Pau, donc j'ai vadrouillé un peu. J'ai connu d'autres massifs de montagnards du côté du massif central, des Alpes. J'ai parcouru un peu plusieurs sites comme ça.
Toujours avec cet aspect ski alpin.
Oui, c'était surtout sur le ski alpin. Mais c'est vrai qu'au moment de la majorité arrivant, etc., j'ai toujours été rattachée et j'ai toujours eu à cœur de revenir dans mes montagnes. Voilà. Même si elles sont toutes belles. Mais j'avais toujours ce sentiment de vouloir y revenir. Et donc vers 18-19, se pose la question, qui reprendra l'exploitation familiale? Est-ce qu'il y aura une suite? C'est vrai que ce n'est pas évident aussi, parce que c'est tout un patrimoine familial aussi. Et donc c'était particulier. Et puis, se pose la question, je sais qu'un jour, mes parents me disent, mais... on va arrêter, on va diminuer, on va voir les choses différemment. Et cet aspect de transhumance, de monter à la montagne avec nos bêtes, de vivre durant 4 mois là-haut, ah, ça... J'y étais accrochée et vivre au milieu de ces montagnes-là. Et je me suis dit non, c'est pas possible. On peut pas tout arrêter là. Donc même si j'ai été voir ailleurs, etc., j'ai toujours eu cette attache, et c'est cette attache qui a fait que j'ai souhaité reprendre l'exploitation familiale. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis associée avec mes parents sur l'exploitation familiale, donc ça aide aussi, parce que le travail est intense, c'est physique, c'est compliqué aussi, en ce moment on le voit bien avec les actualités, donc c'est pas simple, mais on a cette passion qui revient continuellement, mais venir réenrichir notre envie de poursuivre, en fait.
Tu t'es pas posé la question, toi, à la majorité, de te dire, je suis quand même jeune, je reviens m'installer dans un petit village, dans les Pyrénées, un peu... on n'est pas non plus loin de tout, mais est-ce que ça s'est posé, cette question, toi, de je suis une jeune femme et je reviens faire ma vie dans les Pyrénées?
Alors, le déclic, ça a été la dernière année en licence. J'avais un appartement en centre-ville. Et tous les soirs, c'était les bouchons pendant 1h30. Une heure et demie le matin.
C'était où en ville, du coup?
C'était à Pau.
Ouais.
Mais en fait, je me suis retrouvée là. Je me suis dit, mais non. Comment les gens peuvent... Non, mais... Alors, ils vont se dire, mais non, mais on y arrive, mais c'est vrai. Mais eux peuvent aussi se poser la question de comment on arrive à vivre ici.
Bien sûr.
Sur le moment, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas vivre ça. C'est pas possible. Et c'est là où, le week-end, le vendredi soir, je filais, je prenais la route et je rentrais. Je me rappelle, en voiture, voir les montagnes se rapprocher. Et une fois qu'on s'engouffre dans la vallée... C'est bon, on est revenu à la maison et c'est ce sentiment de se sentir bien là où on vit, une forme de bien-être en fait quand on arrive au village et de se dire c'est là que j'ai envie de vivre et c'est là que j'ai envie de construire quelque chose. Je me pose pas la question de est-ce que c'est loin, est-ce que c'est éloigné, est-ce que... Non, c'est vraiment
besoin.
Le besoin qui fait que le reste on l'oublie entre guillemets.
Si je te demande pour toi... Qu'est-ce que ça représente, les Pyrénées? Pour moi, les Pyrénées sont essentielles à ma vie. Quelquefois, j'ai du mal à l'expliquer et à m'exprimer dessus parce que c'est vraiment un sentiment qui est très, très fort. Et notamment, la vallée d'Aspe est un coin qui m'est très cher. Quand j'y suis, quand je le regarde de loin, j'ai une émotion qui me traverse, qui fait que je sais que je ne sais pas ce qui se passera dans ma vie, j'en sais rien. J'ai vécu un certain nombre de choses, et notamment ces trois dernières années, qui me font évoluer et mûrir peut-être plus rapidement que d'autres personnes de ma génération. Mais je sais que je serai toujours autour de ces montagnes-là. Je ne sais pas ce qui se passera, mais j'aurai besoin d'elles.
Tu ne peux pas vivre sans.
Non, je ne peux pas vivre sans. Même quand je m'en éloigne, ça m'arrive de m'en éloigner, mais j'ai toujours ce sentiment de vouloir y revenir. Et voilà, j'ai un petit sourire quelquefois, je me surprends à les regarder avec une certaine émotion. Je me dis, ouais, c'est là. C'est là et pas ailleurs.
C'est intéressant parce que tu as aussi, du coup, tu as eu ce besoin de revenir ici, mais tu as aussi... Tu t'es impliquée dans la vie de toi. Alors, au-delà de l'exploitation et voilà ton métier, tu es devenue maire d'une commune à 24 ans. Comment est-ce qu'on devient maire d'une commune à 24 ans? Qu'est-ce qui... Je pense pas que tous les jeunes se soient déjà dit oh, si je.
Alors, c'est encore pire que ça parce que je me suis présentée, j'avais encore 22. Voilà. Entre-temps, les élections sont arrivées, donc j'en avais encore 22, et par la suite, j'en ai eu 23. Comment ça se passe? Mais ça se passe très... C'était pas, absolument pas prévu. C'était vraiment pas quelque chose...
C'était pas un plan de carrière,
pas
de
du
dire
tout.
Je ferai de la politique.
Pas du tout. Et alors, beaucoup de personnes pensent que c'est le cas. Je me dis, c'est pas possible, en fait, elle est jeune. C'est parce qu'elle a des ambitions pour, dans ce domaine-là. Pas du tout. Comment ça se passe? Ça se passe, je suis en cours d'installation sur l'exploitation familiale. Donc, je reviens en fait de mes études, etc. Donc, c'est la phase où vraiment j'ai envie de revenir dans la vallée d'Aspe. Mais je n'ambitionne pas du tout de devenir maire. Vraiment pas. Conseillère municipale, peut-être. Parce que j'ai toujours été attachée à la vie de mon village, à ce qui s'y passe... à tout ça, voilà.
S'impliquer d'une manière ou d'une autre.
Mon père a toujours été... il a été très jeune aussi conseiller municipal, mais entre conseiller municipal et maire, je ne peux pas dire qu'il y a deux mondes, mais c'est vraiment différent. Comment ça se passe? Ça se passe, on est là, si je resitue, on est en février 2020, et je me dis, il faut que... on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Les anciens élus ne veulent pas repartir. Ils le disent eux-mêmes, ils sont usés. Ils n'ont plus envie de poursuivre. Et en fait, rien ne se passe au village. Rien ne sort. Et oui, il y a des gens qui souhaiteraient y aller faire quelque chose, mais pas maire. Et donc, on se retrouve un peu, mais on est à une semaine de rendre les candidatures à la sous-préfecture. Donc, c'est vraiment le dernier carat. Et un jour, une nuit, je m'interroge, je me dis, mais pourquoi pas, ça peut être un challenge, pourquoi pas rendre à ces montagnes, à ce village qui m'a vu grandir, apporter sa pierre à l'édifice, etc. Allez, tentons. Mais je me dis ça, voilà. J'en parle aussi à ma famille parce que ça allait être aussi concernés, puisque quand on devient élu, on a toute notre vie quelque part qui est bouleversée.
Qui est exposée aussi.
Qui est exposée aussi. Mes parents sont très étonnés. Mon frère,
plus jeune ou plus âgé?
Plus âgé. Étonné, mais bon. Et je sais qu'ils me disent, si tu veux y aller, tu y vas. C'est ta décision. Nous, on t'accompagnera comme on peut et avec nos armes, quelque part. Par contre, il faudra assumer. Voilà, ça, c'est les mots de mon père qui me dit, par contre, il faudra assumer. Et il m'avait dit la même chose quand j'étais partie à l'âge de 15 ans à Lannemezan. Donc, ça résonne en moi. Je me dis, bon, t'as réussi là-bas. T'as quitté le cocon familial assez jeune. T'as fait ton petit parcours. Alors là, on est sur un mandat de 6 ans, c'est complexe. Tu n'y connais rien.
Oui, c'est ça.
Tu n'as pas d'expérience.
Tu n'as jamais fait d'études ou quoi que ce soit dans la politique ou même la gestion.
Du tout. Mais je me dis, j'ai une carte quand même, c'est la connaissance du territoire. Qui est très forte. De par mon métier, de par mes expériences, de par mes connaissances du milieu montagnard. Donc je me dis, allez, pourquoi pas. Mais c'est vraiment de l'insouciance, c'est vraiment une envie d'apporter quelque chose. Donc les élections arrivent, nous sommes élus, mais c'est très intense en fait, parce qu'on se retrouve face à la population. On prend aussi des critiques aussi,
des jugements,
du fait qu'on est jeune, qu'on est une jeune femme. Et je prends des jugements aussi de la part d'autres femmes. Et ça, c'est terrible. Ça,
C'est la première fois que tu étais confrontée à ce genre
à ce point-là,
d'échange ?
À ce point-là, oui, parce qu'en fait, on s'expose. On s'expose de suite. On m'explique que c'est pas à moi d'y aller, que je suis trop jeune, que c'est pas fait pour une femme et que j'aurais fait mieux de rester à la maison.
Oui, c'est fort quand même.
C'est fort, c'est rude. Une autre personne me dit « t'as perdu un pari, qu'est-ce qui se passe ?» et à côté de ça, j'ai des gens qui trouvent ça formidable, qui trouvent ça, qui ont l'impression de voir la nouvelle génération qui se prend en main.
Ouais.
Et alors moi, j'ai pas la prétention de dire que je représente cette nouvelle génération ou autre. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Et s'il souhaite s'investir, il y a d'autres façons de s'investir que de devenir maire ou de rentrer dans des conseils municipaux. Et il y a certains anciens aussi qui sont quelque part admiratifs. Et moi, sur le moment, je ne comprends pas trop. Je me dis, je fais rien d'exceptionnel quand même. Hein. Je deviens maire de ma petite commune, mais bon, c'est... Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte, par la suite, avec mon expérience, ce que ça comporte au quotidien, que oui, en fait, c'était osé. C'était osé, il fallait assumer. J'essaye de le faire. Hein. Je réfie pas tout. Je suis pas... Je reste humaine, donc... OK, des fois, je fais des erreurs, des fois... Et puis
tu apprends tout le temps.
Et puis, j'apprends au quotidien aussi. Alors, des fois, je suis un peu ralentie au départ parce qu'il faut que je m'informe, il faut que je pèse le pour et le contre parce que ce sont des affaires communales. Et donc, on a ce devoir d'essayer de faire au mieux. Et ce poids, il est quand même là, en nous, au quotidien. C'est-à-dire, quelles conséquences ça aura pour l'avenir de la commune. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Alors oui, j'ai mon conseil qui m'entoure et qui m'aide à prendre les décisions, heureusement d'ailleurs, mais c'est pas simple au quotidien, donc je vois que c'est quand même, c'était un engagement fort, mais pour le territoire.
Ça consiste en quoi exactement du coup d'être maire d'une petite, alors c'est 80 habitants, c'était une, on pourrait... Je sais pas, j'ai peut-être le sentiment que quand on est dans des grandes villes, on se sent un peu moins concerné par là où on vit, par ce qui se passe du coup à la mairie. Là, je pense que tu connais sûrement tous les habitants. Qu'est-ce que tu dois faire au quotidien ? Comment ça se passe d'être à la tête d'une mairie ?
Alors, c'est vraiment au quotidien. C'est-à-dire, c'est comme l'agriculture, c'est 365 jours sur 365 jours. C'est un engagement qui est plein. Et qui demande beaucoup de temps, notamment pour gérer les relations aussi avec les autres organismes. Parce que oui, effectivement, on est un peu retiré dans une vallée. Donc les pôles forts sont assez éloignés. Donc c'est une gestion au quotidien, à les réunions, etc. Donc c'est surtout du suivi de réunions. Mais en fait, on a des réunions tous les jours. Donc si vraiment je dois tout suivre de A à Z, je ne suis plus sur la commune. Mon engagement, lui, je me dis à la base, je ne ferai aucune promesse parce que déjà j'ai horreur de ça et que c'est la meilleure façon de mentir parce que j'en sais rien. En fait, j'arrive là, j'ai pas de connaissances, j'ai juste la volonté de vouloir faire des choses sur la commune. Donc, de suite, c'est des projets qui sont lancés, c'est de la gestion de l'eau, de l'assainissement, c'est des choses très concrètes au quotidien, mais sur lesquelles il faut qu'on travaille.
Très technique aussi.
Très technique aussi.
Je suppose quand on n'a pas les compétences, enfin, les compétences, voilà, tu découvres un monde aussi qui part de la grosse décision à la petite décision.
Oui, du quotidien, les affaires du quotidien, et elles sont très présentes, en fait. Et oui, effectivement, la gestion de l'eau, j'ai eu quelques événements très, très compliqués à gérer, très rapidement après mon élection. Donc des dossiers assez lourds avec de la gestion de réunions, d'expertise avec des compagnies d'assurance, avec, enfin, c'était des gros dossiers, des incendies au cœur du village qui ont fait que nous poser certaines questions sur la protection du village contre l'incendie, notamment l'incendie de milieux naturels qui nous entourent, mais aussi des incendies domestiques sur sur des maisons. Mais ça nous a aussi posé question sur notre réseau d'eau et notre capacité à pouvoir gérer la crise sur le moment. Donc, de suite, voilà, c'est technique, c'est du concret. On fait venir des entreprises, on est sur le terrain, on prend des décisions. Et c'est là où on se dit qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Il y a des questions de budget, il y a des questions de choix aussi financiers. Donc, voilà, c'est tout un travail. Il y a aussi des aspects liés à l'école. Le fait qu'on puisse encore continuer de vivre avec des services adéquats dans la vallée. Oui, parce qu'il y a la commune, mais il y a aussi plus largement la vallée, plus largement l'intercommunalité.
Des aspects spécifiques au fait d'être dans les Pyrénées, du coup, et voilà, qu'il y a aussi cette dimension de vallée, l'Espagne, pas très loin, on est aussi sur une route qui est très importante, où il y a beaucoup de passages, beaucoup
c'est
de camions.
Ça. Beaucoup de trafic.
Donc il y a aussi des problématiques qui sont différentes de d'autres communes.
C'est là où, en fait, quand on dit petite commune de 80 habitants, ça ne se vérifie pas. Parce qu'on a un domaine qui est très étendu, avec une commune de montagne, donc avec des spécificités de montagne, avec des estives à gérer, la gestion un bien commun qu'on connaît très bien ici, c'est-à-dire que le collectif prime sur le reste. Mais ça, c'est à la commune de le gérer. Organiser des réunions de suivi, d'organisation, de projet. Et tout ça, c'est à nous de le faire. Voilà, ça nous est pas imposé, mais c'est un choix. Si on veut pouvoir continuer à travailler avec notre environnement, avec ce qu'elle nous donne, nos ressources à nous, notre richesse, eh bien, il faut qu'on s'en occupe et qu'on la préserve. C'est notre devoir.
Est-ce que tu t'attendais à ça quand tu as... Du coup, tu disais que c'est avec une certaine insouciance aussi que tu t'étais proposé. Parce que là, ça fait déjà 3 ans. Il reste encore 3 ans, du coup. Est-ce que tu t'attendais à ça?
Comment fait 3 ans hier.
Oh, bon anniversaire. Bon anniversaire. Tu vois. Comment tu la vis, cette expérience? Comment tu vis ça? Parce que tu as ton métier aussi à côté.
Oui.
Comment tu vis tout ça?
Je m'accroche en fait à mon engagement. À partir du moment où j'ai dit « je m'engage », je suis quelqu'un qui aime aller au bout. Donc si jamais vraiment il m'arrive quelque chose qui fait que je ne peux pas assumer, ça sera autre chose. Mais là, à partir du moment où je me suis lancée, je me suis dit « maintenant, il faut que tu ailles au bout. Il faut que tu ailles au bout, tu n'as pas le choix. » Voilà. Et en fait, souvent je me dis « tout le monde fait des erreurs. Tout le monde en fait. Donc je ne serai pas la première, je ne serai pas la dernière. » Donc, allez, on y va. Voilà. C'était vraiment la volonté qui primait sur tout le reste. Après, au quotidien, au début, je m'étais dit, tu t'organiseras, voilà, vie privée, vie professionnelle, vie d'élu. Non, en fait, c'est impossible parce que j'ai un travail qui est très prenant, parce que la vie d'élu est très prenante aussi. Donc, quelquefois, voilà, je l'assume, je suis en train de m'occuper de mes brebis, de mes vaches, et j'ai les écouteurs et en fait je discute avec l'un et l'autre pour essayer de trouver des solutions, anticiper certaines choses, résoudre certains problèmes mais qui nous sont tombés dernièrement. Donc c'est un quotidien, c'est quelque part mon quotidien, c'est une petite tornade. Voilà, mais ça dure depuis 3 ans, ça durera certainement. Alors au début, on me disait « Non, mais t'inquiète pas, tu gères des urgences. » J'ai l'impression que les urgences, c'est dur quand même. Donc au final, on s'y fait. On essaye de quand même garder quelques jours où, voilà, notamment les week-ends, où on se dit, bon, ben là, on gérera vraiment le problème qui arrive. Ça peut arriver, hein, que des personnes aient besoin de nous, et on essaye d'être présents. J'ai aussi la possibilité de déléguer à mes adjoints, heureusement d'ailleurs, parce que bien souvent, on ne peut pas être partout, on n'est que 6 au sein du conseil municipal, et donc on ne peut pas être sur des réunions d'urbanisme, sur des réunions dans le domaine du social, dans le domaine de la montagne, dans le domaine de la protection civile. Enfin, on ne peut pas être partout en même temps, et c'est vraiment complexe et technique, donc on délègue vis-à-vis aussi des compétences de chacun, puisqu'on a tous une vie et des expériences différentes. Donc voilà, c'est vraiment un bouleversement dans ma vie. Mais je ne peux pas dire que je regrette à l'heure actuelle, parce que c'est passionnant aussi. Et voilà, ça reste quand même... On se met au service du collectif. Et ça, on prend quand même une claque d'humilité, parce qu'il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on voit bien qu'on est un maillon essentiel de la chaîne vis-à-vis de la construction de notre société en elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ça m'est arrivé, des personnes un peu plus âgées qui ont des démarches à faire sur Internet et qui ne s'en sortent pas et qui ne comprennent pas et qui, voilà, essayent d'appeler les services, etc. et qui n'y arrivent pas. Et alors, sans rentrer dans les détails, mais on les aiguille un peu, on leur dit, voilà, tu peux faire ceci, ça, je vais contacter tel service, peut-être qu'il pourrait te renseigner. Et ça, dans nos villages, dans nos vallées, dans notre campagne, dans notre ruralité française, c'est essentiel. C'est essentiel.
T'as le sentiment qu'on en parle assez de cette ruralité française, justement? Alors voilà, en ce moment, il y a quand même tout ce mouvement d'agriculteurs... Est-ce que tu trouves que ces vallées, ces petites communes, on en parle? Ou est-ce que parfois tu as le sentiment d'être un peu abandonnée et isolée
On en parle, mais pas suffisamment et pas avec les connaissances qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'on voit, la ruralité, la campagne, comme quelque part une bulle verte. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Et quelquefois, je le vois, hein, même quand je vais dans des réunions avec une échelle un peu plus importante, même au niveau du département, y a des réactions qui font qu'on voit bien que quelquefois, on n'est pas compris. Ou en tout cas, on a du mal à être entendu. Donc c'est vrai que c'est super important de poursuivre l'action, même si ça nécessite du temps, même si c'est un investissement colossal. C'est essentiel qu'on poursuive le fait d'être représenté au sein de diverses assemblées. Il n'y a pas que l'aspect politique, en fait. L'action, elle peut venir de tous bords. Ça peut être aussi une action dans une petite association. Elle peut apporter autant à nos vies ou à nos campagnes que l'action politique en elle-même.
Est-ce que les critiques, elles ont... changer sur le fait d'être une femme jeune, ou est-ce que ça se perpétue?
Je les entends plus. Ça va être ça, surtout. Au début, ça peut toucher. Au début, parce que c'est un monde moi, personnellement, je ne connaissais pas. Donc, cette exposition, le fait d'être mis en avant, la moindre décision, elle peut être attaquée, elle peut le statut d'élu aussi fait que avec les crises que l'on a connues, notamment le Covid, où on a été attaqué.
Oui, t'as débuté dans une période en plus
très compliquée.
Pas facile.
Très compliquée, parce que les décisions du gouvernement en lui-même. Elle pouvait nous atteindre aussi vis-à-vis des personnes, parce qu'on est en ligne de mire. Donc les gens nous parlent à nous comme si nous étions des messagers et que nous pouvions appeler Emmanuel Macron à la moindre en lui disant « bon ». Mais non, on peut échanger avec les sous-préfets ou sous-préfètes ou les préfets, on peut échanger. Mais nous, les décisions qui sont prises... Nous sommes représentants de l'État sur les territoires, oui, puisque nous, nous revêtons les écharpes. Mais nous sommes aussi représentants des habitants, puisque nous sommes élus par les populations. Donc on est vraiment pris entre deux feux, ou quelquefois, mais on peut avoir des réactions en face de nous et ne pas être préparé à les gérer. Parce que on n'est pas formé, en fait.
Bah, c'est clair.
Alors oui, on a droit à des formations, mais sur sur la gestion du budget, par exemple, qui est très très complexe. Les deniers publics sont extrêmement contrôlés et quelquefois, c'est vraiment particulier comme gestion.
Puis on s'attend aussi de la part d'un maire, j'ai l'impression parfois qu'il sache tout faire.
Exactement.
Et qu'il sache répondre à la moindre demande de très très
rapidement. Très rapidement, voilà.
Et je pense que ça c'est aussi un poids et une responsabilité assez importante à porter.
Oui. Je me suis quelque part blindée.
Ouais.
Alors, pas totalement, parce que je reste humaine. Donc, quelquefois, quand on a essayé par tous les moyens d'atteindre un objectif qu'on l'a pas totalement atteint et qu'on nous reproche justement de ne pas y être arrivé jusqu'au bout... c'est lourd parce que nous, on connaît les heures qu'on a passées, les réunions qu'on a suivies, préparées, les invitations des différents services à venir sur le terrain, regarder ensemble les solutions qu'on pourrait trouver. Donc c'est vraiment particulier. C'est pour ça que j'invite qui que ce soit à s'investir dans un conseil municipal. Peut-être pas tout au long d'un mandat, mais sur une... Bon, alors c'est mieux de tenir tout au long d'un mandat, mais au moins... voir par eux-mêmes ce qui s'y passe et comment ça se passe. Et que quelquefois aussi, nous, on est confrontés à une administration, à des procédures, à des choses qu'on pensait pouvoir gérer tout simplement et qui, au final, prennent des proportions énormes.
Ouais.
Et on n'a pas de service. Nous, on a une secrétaire à mi-temps qui est formidable, qui essaye par tous les moyens de faire tout ce qu'elle peut. Mais quelquefois... c'est quelquefois pas suffisant et donc nous élus on s'y met aussi, on amène notre savoir et on essaye, c'est une équipe en fait qui essaye d'apporter son plus, donc voilà, c'est pas évident. Mais en termes de critique, je me dis, de toute façon, quoi que je fasse, je pense que je serai critiquée parce que c'est le jeu aussi aujourd'hui dans notre société,
ouais.
Quoi qu'on fasse, même quand on n'est pas élu, je fais référence par exemple aux réseaux sociaux. Quelquefois, les gens n'ont pas un quart des informations.
Bah, bien sûr.
Et en fait, se permettent de juger, de donner leur avis, alors que, en fait, non, c'est pas vraiment ce que tu penses qui s'est passé. Mais c'est vrai que c'est la porte à tout et n'importe quoi, quelquefois. Ça, c'est des avantages, je le remets pas en cause. Et heureusement aussi que quelquefois ils y sont, c'est d'autres façons de communiquer. Mais bon, voilà. Comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients.
Est-ce que la proximité avec l'Espagne influence joue un rôle dans la gestion d'une commune? Parce que c'est particulier quand même d'être... on est à quelques kilomètres frontaliers avec un autre pays. Est-ce qu'il y a des enjeux à ce sujet-là aussi?
On travaille... C'est pas à l'échelle du quotidien, mais on travaille ensemble quand même. C'est vrai que la barre de la langue fait que quelquefois ça peut être plus difficile pour certains que d'autres. J'ai la chance de parler espagnol, donc pour moi c'est assez simple. C'est assez simple de dialoguer avec eux, d'échanger. On a la chance aussi de se rencontrer une fois par an pour signer le traité de la Vésio. Qui était un traité qui autorisait les troupeaux français à entrer en Espagne. Donc c'est vraiment l'occasion de se retrouver, d'échanger ensemble. On aime marquer cette journée parce que c'est important de mettre en avant nos liens en fait, d'amitié avec notre peuple voisin.
Oui, puis les liens aussi, parce que je trouve parfois on parle des Pyrénées, on se dit les Pyrénées, ça s'arrête à la France. Non, les Pyrénées, c'est...
Ouais.
Voilà, on a une frontière qu'on partage avec l'Espagne. Et,
exactement.
Et on a tendance à l'oublier parfois.
Oui. Et en plus de ça, avec notre Europe, on voit bien que les petites communes espagnoles aussi ont les mêmes difficultés que nous. Et donc, de se lier, d'échanger, comment vous faites ça en France, comment vous faites ça en Espagne, comment vous l'avez géré. C'est toujours, ça apporte toujours, parce que dans l'échange, il y a toujours de la connaissance, du partage. Donc là-dessus, c'est plus simple. Il y a aussi des partenariats vis-à-vis du tourisme aussi, parce qu'on voit bien qu'ils ont des besoins et des envies différentes. Et ils aiment aussi ce côté nature et que nous, on a su conserver aussi. On a une vallée qui est assez préservée de ce côté-là. Aussi parce qu'il y a eu une agriculture paysanne qui a été poursuivie pendant des siècles. Donc on est attaché à nos traditions et ça leur plaît aussi aux Espagnols de découvrir tout ça.
Est-ce que avec cette fonction de mère, tu as dû mettre de côté en quelque sorte ton amour pour les montagnes et par exemple ces mois en estive l'été? Est-ce que c'est un peu un choix que tu as dû faire entre l'aspect plus nature, être dehors et vivre dans ces montagnes, et l'aspect plus politique, on va dire, de gérer une commune?
Non, j'ai pas pu.
Au moins, c'est clair.
Non, j'ai pas pu parce que je reste moi-même. Et oui, bien sûr, bien évidemment que je passe bien plus de temps qu'avant en salle de réunion, à gérer les affaires communales. Mais l'été, je peux pas. L'été, c'est pas possible. Alors, parce que aussi mon métier fait que je ne peux pas. Mais par contre, je peux être très bien en train de garder mes brebis en estive toute la journée et avoir un carnet, avoir le portable, la tablette pour gérer des mails, gérer... Donc j'arrive assez facilement à gérer les deux. J'ai la chance aussi que du côté politique, l'été, ça se calme au niveau des réunions, au niveau des obligations. Et sur la partie vraiment présence sur la commune, alors je suis pas bien loin en estive, donc ça me permet de pouvoir régulièrement redescendre, alors pas en journée, ça c'est évident, parce que mes animaux ont besoin de moi, mais le soir ça m'arrive même tard hein, de repasser à la mairie, de vérifier voilà, certaines choses, de voir avec on a mis en place certaines choses avec mon équipe qui font qu'on arrive à avoir une certaine liaison et de pas perdre d'infos. Mais en présentiel, évidemment, mes adjoints assument ce rôle-là lorsque je suis absente. Mais voilà, en cas de grosse urgence, je ne suis pas bien loin, je reste quand même sur la commune, puisque l'estive sur laquelle je me trouve appartient à la commune de Sept-Aigues.
C'est une vie à 100 à l'heure.
À 120.
Non mais je veux dire, c'est pas commun, enfin... On a le même âge, on n'a pas du tout les mêmes responsabilités. C'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça impressionnant et aussi honorable. Et je trouve ça super cool de voir des jeunes qui s'investissent comme ça. Qui, en plus, un travail à plein de temps à côté, quelque chose qui prend du temps, quoi.
Oui, oui. Le poids des responsabilités, on s'y fait. On s'y fait, mais c'est vrai que c'est prégnant. Au quotidien, en fait, la moindre décision, on sait que ça peut avoir vraiment une incidence sur le collectif, mais pour soi aussi, parce qu'on peut pénalement être mis en cause pour diverses raisons. Et donc ces aspects-là, c'est vrai qu'en 2020, quand je m'investis et que je me présente, j'en ai pas vraiment conscience à 100%. C'est à partir du moment où, effectivement, on porte l'écharpe, où on a vraiment ces aspects protocolaires, où on rencontre des gens avec une certaine importance aussi, et voilà, c'est tout à fait normal. Mais
c'est
là,
nouveau,
c'est nouveau, c'est totalement différent. Mais quotidiennement, nos responsabilités font qu'à la moindre erreur, on peut être pénalisé personnellement.
Si on revient un peu aux montagnes, avant de conclure, qu'est-ce que les montagnes, ça représente pour toi? On a parlé des Pyrénées, mais plus particulièrement la montagne et peut-être la pratique de la montagne.
La montagne a toujours fait partie de ma vie. Donc c'est j'y travaille. J'ai cette chance aussi de pouvoir allier mon activité professionnelle à mon environnement. Et je participe à ce que ces montagnes-là restent vivantes et belles. Enfin, j'ai l'impression. Après, ce n'est pas la vie de tout le monde, mais, Mais effectivement, on a ce devoir moral aussi dans notre métier, dans notre domaine d'activité, mais de poursuivre ce qu'ont fait les anciennes générations. Et donc, pour moi, la montagne, elle est essentielle à ma vie, elle est au cœur de mon existence. Et vraiment, je ne me verrais pas faire différemment. Alors oui, je randonne moins, je vais moins voir mes voisins dans d'autres vallées pyrénéennes, chose que j'aimais faire avant. Mais je pense que c'est passager. Je suis jeune, j'aurai la possibilité d'aller me balader différemment plus tard. Mais mon engagement aussi en tant que mère m'a permis aussi de découvrir via d'autres événements, dans différents cadres, mais des acteurs aussi pyrénéens, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées, Ariège, Haute-Garonne, et d'échanger avec eux, et c'est super sympa. Parce qu'on voit qu'il y a d'autres jeunes aussi ailleurs, mais qui eux aussi ont fait des choix, pas forcément politiques, hein, mais professionnels par exemple, et qui se lancent, qui ont envie d'avoir des activités. Même ici, au sein de la commune, on a des jeunes qui sont revenus, qui ont dit « Allez, on veut
vivre
ici ». Oui,
tu as le sentiment qu'il y a cette jeunesse quand même qui revient. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais juste avant, c'est vrai qu'on parlait du tourisme. Parfois, on le dit, les communes, les petites communes, ben, elles meurent un peu. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus ce petit bar ou ce resto qui amène du monde. Toi, tu as le sentiment, toi qui as toujours vécu ici, qu'il y a un peu ce retour où les jeunes reviennent s'installer dans les petits villages.
Il y a des jeunes qui reviennent s'installer et des jeunes qui ont conscience que si on ne crée pas sa propre activité, quelquefois, on ne peut pas vivre là où on souhaiterait vivre. Et totalement. Donc, c'est vrai qu'il y en a, il y en a beaucoup dans la vallée, là. Ça a été assez impressionnant ces trois dernières années. Et notamment, je pense, le Covid a fait que. Ils ont pris conscience aussi du cadre de vie que les montagnes pouvaient offrir. De ce petit cocon qu'on peut former aussi. Le fait que dans nos écoles, il y ait moins d'effectifs et que ce soit plus agréable aussi pour les enfants d'y évoluer. Une crèche mise à disposition. Les communes vraiment luttent pour que la vie sociale soit la plus forte possible. Alors tout, on ne réussit pas tout, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de jeunes qui y reviennent et qui se disent « Bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je peux monter ?» et on l'a vu. Il y a plein de jeunes dans la vallée là, qui se sont installés, qui ont monté leur activité. Nous, on a une créatrice de bijoux, on a un brasseur, on a des maisons d'hôtes, un hôtel-restaurant.
C'est là aussi l'utilité du maire d'accompagner ces projets et de montrer que ces villages-là sont aussi en demande de jeunes et de projets.
C'est ça. J'étais hier, par exemple, en réunion avec le président de la Fibre 64, qui est le syndicat en fait, qui œuvre pour l'arrivée de la fibre optique dans tout le département des Pyrénées-Atlantiques. Et c'est vrai que, au départ, ça avait été prévu en aérien. Et c'est vrai que nous, quand on est arrivé à la mairie, on a été un peu surpris de voir que chez nous, en zone de montagne, c'était prévu en aérien. On nous disait que ça allait être, c'était un peu plus fragile que le reste. On s'est dit, mais en fait, on a des jeunes qui veulent s'installer. À l'époque, on avait un studio photo, web, des créateurs de contenu, etc., qui vivaient au village, qui étaient super contents d'y vivre. Mais de par le manque de réseau...
C'est un enjeu énorme.
C'est un enjeu qui est énorme, notamment pour la pérennisation de certaines activités. Et donc, on y a travaillé. J'y étais encore hier, parce que c'est essentiel. C'est-à-dire que si on veut que des activités elles puissent se développer avec de la vente, par exemple, sur Internet, pour différentes choses. Et comme je l'ai exprimé, l'hôtel-restaurant, le château d'Arance que l'on a ici à Sète, le moindre paiement en carte bleue se fait aujourd'hui avec Internet. Et le problème, lorsque Internet ne fonctionne pas, ben c'est le drame. C'est le drame. Et donc...
Oui, il n'y a pas une banque à deux pas non plus.
Non, voilà. Donc, il faut trouver des petites solutions. Alors, c'est le quotidien. Après, chacun est plus ou moins inventif. Mais pour nous, petit village de montagne, c'est essentiel de pouvoir être connecté de façon fiable.
Si je
caricature au reste du monde, mais bon.
Oui, mais ça reste, ça demeure en fait un peu ce. On a l'impression aujourd'hui que tout est interconnecté, mais au final, on se rend compte que non, il y a encore du travail, tout en gardant cette authenticité de village, de montagne. Ça n'enlèvera pas ça,
oui.
Mais c'est vrai qu'il y a encore du boulot pour pouvoir faire venir de nouvelles activités.
On parlait tout à l'heure de la crise Covid. Toutes les réunions se tenaient en visio. C'était une catastrophe de tenir des visios ici. Et alors,
on va faire comprendre ça à des gens qui sont à Paris ou dans des grandes villes.
Exactement. Et quelquefois, ils ne comprenaient pas. Et alors, ça ne fonctionne pas. Donc, on prend le téléphone. On dit, finalement, on ne va pas pouvoir faire la visio. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas Internet. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Non, mais vous inquiétez pas. On va faire une conversation téléphonique. On va y arriver. On va se parler. Mais... sur le moment, on se dit vraiment, si vraiment on avait quelque chose d'un peu plus opérationnel, ça ferait pas de mal quand même.
On va arriver sur les petites questions de la fin. Si je te demande ton endroit préféré dans les Pyrénées,
La vallée d'Aspe. Mais ça, je pense que tout le monde l'a compris.
La vallée d'Aspe.
La vallée d'Aspe et plus précisément le massif de l'Aspe. Ouais.
Ton endroit favori ou que tu recommanderais pour manger?
Château d'Arens, ça c'était bien. Super sympa, une terrasse panoramique.
Il n'y a juste pas le panneau en bas, donc il faut savoir qu'il faut monter un peu au-dessus du village.
Exactement.
Il n'est pas visible depuis la route, mais il est là.
Mais il est là.
On vous mettra la petite carte GPS pour y aller. Et si tu as des ressources comme un livre, comme un documentaire qui, toi, t'a marqué et que tu pourrais partager avec les auditeurs? Oui, je prends de cours à chaque fois, c'est un peu...
J'ai pas de réponse là.
Peut-être sur ton métier de bergère, peut-être sur les montagnes en général.
Non, je suis actuellement en train de lire le livre de mon voisin maire, Robert Casadevé, à La Reims. On a l'occasion quelquefois d'échanger. On est voisins, mais on ne se voit pas souvent parce qu'il est de l'autre côté des montagnes, justement.
Oui, il faut quand même descendre.
Voilà. Et voilà, je suis en train de le lire. C'est extrêmement intéressant parce que c'est quelqu'un qui a vécu à La Reims, qui y a travaillé, qui avait une entreprise et qui s'est engagé pour l'associatif, le rugby en premier lieu, et par la suite pour sa commune. Donc ça retrace un peu ses engagements et c'est quand même à l'image de ce que vivent beaucoup d'élus dans nos montagnes en fait. Voilà, pour retracer ça.
Là
comme ça, je pense à ça parce que actuellement je suis en train de...
Ah non, mais c'est top, je pense que ça peut...
De
ça
le
peut...
découvrir. Ça peut être aussi un ouvrage qui a été fait... dernièrement là sur un ancien garde du parc national Baptiste Moropo,
okay.
qui était natif d'Etsot, un village juste à côté de cet aiguin, et qui lui aussi retrace un peu son parcours de son enfance en tant que fils de berger aussi, des anecdotes assez riches au niveau de nos montagnes, de son vécu, et l'un et l'autre sont assez forts.
Génial, merci beaucoup.
Merci Anne-Sophie.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je t'invite à me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast, mais aussi à partager cet épisode autour de toi. Tu trouveras également dans les notes du podcast le lien vers la cagnotte Tipeee qui permet de soutenir ce podcast 100% autofinancé. Je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Adi chats!